titre de ce 12 février, plusieurs centaines de pompiers mobilisés en Nouvelle-Galles du Sud pour lutter dans le cas où il y aurait des feux catastrophiques ce dimanche. Des demandeurs d'asile aux États-Unis face à l'incertitude cherchent refuge au Canada. François Fillon, le candidat de droite à la présidentielle en France, est en campagne en ce moment à l'île de la Réunion. En Nouvelle-Galles du Sud, donc, préparation ce dimanche pour des possibilités de feux catastrophiques pour les régions de la Greater Hunter, Central Ranges et North Western. Interdiction totale d'allumer des feux dans tout le New South Wales. Selon le Rural Fire Service, 75 feux brûlent, dont 18 feux hors de contrôle. Shane Fitzsimmons est le commissaire de la Rural Fire Service et selon lui, les conditions sont pires que celles que Black Saturday de 2009 dans le Victoria quand 173 personnes ont trouvé la mort. Il demande aux gens de quitter les régions concernées.
We simply cannot guarantee that a fire truck will be at every home or every property under these conditions. We cannot guarantee that aircraft will knock down these fires and let firefighters gain the upper hand. We will not guarantee, and we cannot guarantee, that a warning, a telephone message, a knock at the door will occur for everyone that comes under threat. If you are caught out in the open under these sorts of conditions, you are likely to die. It's as simple as that.
Voilà, c'était Shane Fitzsimmons du Rural Fire Service en Nouvelle-Galles du Sud. En Australie-Occidentale, le Parti libéral a signé un accord avec le parti One Nation de Pauline Hanson pour diriger leur vote vers One Nation dans certaines circonscriptions de la Chambre haute pour que les votes n'aillent pas au Parti national. Le parti One Nation donnerait d'abord leur vote au Parti libéral dans toutes les circonscriptions de la Chambre basse pour bloquer la route au Parti travailliste. Le Parti national estime la perte de un ou deux sièges à la Chambre haute. Arthur Sinodinos, le sénateur libéral et ministre fédéral de l'Industrie, était sur l'ABC ce matin. Il ne croit pas que cet accord entre les libéraux d'Australie-Occidentale et One Nation va impacter sur l'arène fédérale.
Our job is to treat them as any other party. That doesn't mean we have to agree with their policies. We have to deal with them in the Senate. And so when it comes to issues of preferencing and the like, we have to make decisions. In this case, it's a state decision. It's not a federal decision based on the local circumstances. But my job, Malcolm Turnbull's job in the next couple of years, is actually to take votes away from One Nation.
Voilà le sénateur du Parti libéral, Arthur Sinodinos. Le sénateur Corey Bernardi fait un plaidoyer avec ses collègues du Sénat pour le prendre au sérieux et de cesser de l'insulter. Cette semaine, il a démissionné du Parti libéral pour créer son parti Australian Conservatives. Il est critiqué sur tous les fronts. Corey Bernardi était sur Sky News ce dimanche et il explique la réalité de son influence au Sénat.
I'm not sure what they've got to gain by abusing me. They will need my support to pass legislation. The smarter ones in the coalition are saying, look, we're very disappointed, Corey. We like you, or, you know, we don't like you. They don't have to like me, but, we're disappointed. We think it's the wrong decision, but, you know, you've made it. Now we want to work with you constructively. That's the logical and sensible path forward.
Le sénateur Corey Bernardi, l'Association des fonds de retraite en Australie, demande au gouvernement fédéral de modifier les lois qui permettront aux commissaires des taxes de permettre à ces personnes d'accéder à leur pension de retraite de ces comptes non réclamés. The Association of Superannuation Funds en Australie estime qu'il y a près de 2,7 milliards de dollars de quelque 4 millions de comptes non réclamés. Écoutez Glenn McRae de cette association.
By sitting in the tax office, you're missing out on the benefits of returns and compounding. So, for example, for a 25-year-old with 4,000 superannuation for various part-time jobs while studying, have that money held by the tax office as unclaimed super, moving it back to one of your active super accounts would mean at retirement you'd be nearly $15,000 better off.
Voilà, c'était Glenn McRae de l'Association of Superannuation Funds en Australie. Aux États-Unis, au Texas, manifestation contre les descentes par les officiels du ministère de l'Immigration et des Douanes contre des personnes soupçonnées d'héberger des migrants sans visa. Écoutez ce manifestant.
just separating families, but we as a community here have the right to gather and unite and fight for our rights, for the rights of the community, for the rights of the immigrants.
Et puis le chef de la sécurité intérieure aux États-Unis, John Kelly, défend les descentes, déclarant que ce sont des criminels qui sont visés.
Well, first of all, they're not rounding anyone up. The people that ICE apprehend are people who are illegal and then some. I went out this morning on two what they call knock and talks. This was before 6 a.m. Went to a house, knocked on the door, and took a particularly bad individual, a male, into custody.
Voilà, c'était John Kelly, le chef de la sécurité intérieure aux États-Unis, et puis des demandeurs d'asile, toujours aux États-Unis, face à l'incertitude, cherchent refuge au Canada. Dans la région du Minnesota, les dirigeants de la communauté somalienne déclarent qu'un nombre croissant de demandeurs d'asile essayent de traverser la frontière pour aller au Canada. Omar Jamal, un des responsables de cette communauté, s'inquiète du sort de ces réfugiés qui prennent le risque dans le froid et dans la neige sans beaucoup de précautions.
Figure out what happened and where are they? Are they still alive? You know, what happened to them? They're doing it, they think it's worth the risk. Otherwise, they wouldn't do it. Canadian government will take some urgent steps to address these people's plight and concern and very serious issue. I hope we can get their attention to do something about this, not watch people suffer.
Voilà, c'était un des responsables de la communauté somalienne dans la région du Minnesota aux États-Unis. Le candidat de droite à la présidentielle en France, François Fillon, est à l'île de la Réunion. Pour faire campagne, il y avait des manifestants pro et anti-Fillon. Reportage Julien Chavannes pour RFI.
Des pancartes, plusieurs casseroles et des revendications qui vont de l'expropriation des terres à l'accès à l'hôpital. Ils étaient une petite dizaine à attendre François Fillon devant une ferme photovoltaïque. Des femmes, pour la plupart, en majorité de gauche, toutes révoltées par le Penelope Gate.
Monsieur Fillon, veux-tu m'épouser pour être la première ministre de la France? Je pense que ça va être la première mondiale
en
France.
C'est pour le fric, ça, Reine-Claude.
Oui, c'est pour le fric. Voilà.
À côté de la petite troupe bruyante mais pacifique, une quinzaine de gros bras qui se présentent au micro comme des pro-Fillon. Plutôt des hommes liés à la droite locale, nous affirment les manifestants. Après de longues minutes de face-à-face tendues, les pro-Fillon plongent sur le groupe, arrachent les banderoles, des coups partent. Les gendarmes s'interposent, les gros bras s'éloignent. François Fillon arrive, fait le tour de la ferme comme si de rien n'était, avant un bain de foule composé uniquement de sympathisants.
Bien, vous vous rappelez que nous avons dîné ensemble?
Absolument. Vous
vous rendez compte que j'ai fait 11 000 km pour vous voir?
Moi aussi.
Les manifestations continuent donc de polluer la campagne du candidat LR. Impossible de se déplacer sans attirer des gens en colère. Impossible de faire campagne sereinement, d'être tout simplement audible. Certains manifestants ont promis de le suivre partout sur l'île.
Julien Chavannes pour RFI. Benoît Hamon, le candidat du PS, a inauguré ses locaux de campagne hier à Paris. Guillaume Nodin, RFI.
Tout en haut et tout au fond de cette ancienne manufacture, dans le bureau du candidat, il y a des photos. Barack Obama, Miles Davis, Mohamed Ali, Benoît Hamon aiment s'inspirer des meilleurs dans leur spécialité. Pas étonnant donc qu'il présente une équipe ouverte sur la société civile, avec des économistes, des sociologues, un conseil citoyen de 40 personnes tirées au sort, le sénateur maire d'Alfortville, Luc Carvounas.
Il a voulu simplement présenter une philosophie, société civile, les responsables politiques, les partenaires, en co-construction avec celles et ceux qui auront envie de venir dans ce beau lieu. Je crois que c'est une belle manière de faire aujourd'hui de la politique.
Luc Carvounas, qui chapeaute un conseil des parlementaires, est aussi un proche de Manuel Valls. C'est qu'il faut rassembler. Benoît Hamon.
Ce n'est pas un congrès du Parti Socialiste. C'est la constitution de l'équipe de campagne qui doit nous amener à la victoire. Et cette équipe de campagne s'appuiera sur toutes les richesses qui sont celles de la gauche. Et parmi celles-là, les amis de Manuel Valls, évidemment.
Ce n'est pas un congrès du PS, mais le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis est tout de même là pour apporter son soutien.
Vous voyez bien que la dynamique est du côté de Benoît Hamon. Elle est là, partout, les rassemblements sont massifs. Elle est en marche, si je puis dire. Donc quand on est en marche derrière Hamon, c'est qu'on va gagner.
L'allusion à Emmanuel Macron est limpide. S'il réussit à faire l'union de la gauche, ce sera l'autre épine dans le pied de Benoît Hamon.
Guillaume Nodin pour RFI. En Espagne maintenant, avec ce week-end où a lieu le deuxième congrès de Podemos à Vistalegre, au sud-ouest de Madrid. Le parti serait deuxième dans les sondages devant les socialistes. Précision de François Musso pour RFI.
Unidad, unidad, unité, unité, c'est le cri du cœur qu'on a le plus entendu dans ces arènes de Vista Alegre, où pas moins de 10 000 militants de Podemos se sont rassemblés pour ce moment critique et crucial pour leur formation. Pourquoi ? Parce que le parti est au bord de l'implosion, principalement à cause de la lutte fratricide entre Pablo Iglesias, le secrétaire général plus radical, et Íñigo Errejón, le numéro 2, davantage modéré. À chaque fois que l'un d'eux a pris la parole dans cette immense enceinte tapissée de drapeaux mauves, la couleur de Podemos, ils ont chacun tenté de rassurer le public. Un public venu de toute l'Espagne, dont le désir majoritaire est que les deux courants se maintiennent, que le tandem aux manettes perdure, garantie d'un parti en forme et qui, d'après les sondages, est désormais la deuxième force politique du pays, derrière les conservateurs, mais devant les socialistes. Pour autant, beaucoup de militants se disent préoccupés, estimant que les amis d'hier, Iglesias et Errejón, sont aujourd'hui des ennemis irréconciliables, une situation qui, pour la majorité, risque fortement d'affaiblir cette formation anti-système.
François Musso pour RFI. Référendum en Turquie le 16 avril prochain pour modifier la constitution qui vise de remplacer le système parlementaire par un régime présidentiel. Écoutez l'analyse du politologue et économiste turc Ahmet İnsel.
Là, ce n'est plus la dérive, c'est l'installation dans l'autocratie. C'est vraiment une installation, institutionnalisation, officialisation, institutionnalisation d'un pouvoir autocratique. Donc, parler de dérive désormais, si le référendum passe, parler de dérive est désormais concerne le passé et non pas le présent. La société turque est une société qui est vraiment éclatée, clivée, et je crois que ce régime présidentiel, s'il passe, va aggraver, accélérer tous les éléments de clivage de la société turque. Nous vivons une sorte de guerre civile symbolique. Je crains que cette guerre civile symbolique, cette fois-ci, s'aggrave, s'installe. Et la dérive dont on peut parler dans l'avenir, ce sera une dérive vers la guerre civile et non plus d'une dérive autoritaire.
Voilà le politologue Ahmet İnsel. En Nouvelle-Zélande, les volontaires essayent de sauver des baleines pilotes échouées sur une plage. Sur les 650 baleines, 335 sont déjà mortes. Herb Christopher est du ministère de protection de l'environnement. On l'écoute.
We are concerned about this other 240 which have come in to the shore. So we're dealing with a totally new stranding. The whales are trying to go around the top end of the South Island, and to do so, they have to pass Golden Bay. If they get their navigation a little bit off, they end up going into Golden Bay itself, which is very shallow.
Voilà, c'était Herb Christopher du ministère de la Protection de l'Environnement en Nouvelle-Zélande. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximale de 28 degrés, Adélaïde 23, Melbourne 19, Hobart 17, Canberra 32, Sydney 29, Brisbane 39, Cairns 32 et à Darwin maximale de 30 degrés. Un rappel des grands titres de ce 12 février, plusieurs centaines de pompiers mobilisés en Nouvelle-Galles du Sud pour lutter dans le cas où il y aurait des feux catastrophiques ce dimanche. Et puis en sport, en A-League en Australie, controverse concernant les arbitres suite au match Melbourne City contre Brisbane Roar hier. Plus de détails dans le journal des sports.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench